Tout le monde veut devenir un héros de la vente, mais personne ne veut s'entraîner comme un champion. Si tu écoutes ce podcast, tu fais déjà partie des 10% des meilleurs vendeurs. Mais j'ai encore quelques secrets qui pourraient te permettre d'aller au-delà de tes espérances. Tu veux les connaître? J'ai un bon deal pour toi. Va sur le site lesherosdelavente.com, télécharge le playbook de vente, c'est le recueil de tous mes meilleurs conseils que j'obtiens dans le podcast. Fonce les découvrir et tu auras les fondamentaux pour progresser à vitesse grand V et rejoindre le cercle très fermé des héros de la vente. J'ai rajouté un conseil à la fin du playbook, en bonus, qui est pour moi le secret ultime que tous les vendeurs voudraient connaître. Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode Les héros de la vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Serge Papeau. Serge, salut.
Hello, salut Alexandre, merci de me recevoir.
Ouais, c'est un plaisir. Alors Serge, tu es le fondateur de Nomination, donc tu vas expliquer aux auditeurs ce que vous faites. Peut-être qu'ils ne te connaissent pas. Moi, j'en ai parlé plusieurs fois dans le podcast. C'est un outil que je connais bien. Je l'ai utilisé dans différentes expériences. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer aujourd'hui ce que tu fais? Pourquoi c'est intéressant de t'écouter dans le podcast L'Héros de la Vente? Et après, on va démarrer le sujet du jour qui, je pense, va intéresser de nombreux auditeurs.
Ok. Alors, Nomination, notre vocation, c'est d'aider des entreprises à travers leurs équipes commerciales et marketing à trouver leurs futurs clients, à engager les bonnes conversations avec les bonnes personnes dans les bonnes boîtes. Donc, ça se matérialise par de la data, par des outils SaaS de protection pour des commerciaux ou des outils de lead gen pour des équipes marketing, et également une offre de service où on prend en main de A à Z la génération des rendez-vous pour ceux qui ne veulent pas ou peuvent pas utiliser la data et les outils.
Ok, voilà. Vous avez, moi c'est vrai que j'ai utilisé l'outil un peu de manière autonome, mais vous avez une brique où vous avez des personnes qui le font à la place du client.
C'est ça, mais je vais en parler l'occasion d'en parler tout à l'heure, absolument.
Ok, très bien. Et juste pour l'information, vous existez depuis combien de temps?
On existe depuis un peu plus de 20 ans.
Donc, ok, très bien.
Et plus de start-up.
Ouais. Et peut-être que pour ceux qui ne voient pas trop, mais on vous voit notamment dans, par exemple, dans les échos où vous montrez les gens qui changent de boutique, qui se sont nommés à des postes. Et puis tu vas nous expliquer en détail, mais pour vous donner un cas d'usage. Moi, je l'ai utilisé, par exemple, dans une ancienne entreprise où je devais démarcher des grands comptes du domaine de la banque et assurance. Et très vite, je pouvais voir l'organigramme de ces grands comptes. En général, des numéros de téléphone et des emails qui sont vérifiés par vos équipes. Et ça me permettait aussi de voir, les événements auxquels ces grands comptes participaient, de pouvoir rebondir sur ces événements pour les contacter de manière un peu moins froide que d'habitude. Et c'est un cas d'usage de votre outil. Il y en a plein d'autres dont on va en parler. Mais ça, c'est un outil qui peut vraiment beaucoup vous aider sur la prospection.
Tu as cité le carnet des échos, que tout le monde connaît. Hein, c'est la colonne qui annonce toutes les nominations tous les jours. Alors ça, c'est vraiment un pilier hyper important chez Nomination. C'est tout le réseau de partenaires qu'on a sur les médias, et tout ce qui est réseau d'anciens élèves d'école. Donc, le carnet des échos, en l'occurrence, c'est quelqu'un chez nous, chez Nomination, qui produit le carnet, qui rédige chaque jour les notules de Nomination qui sont publiées. Et on a 200 partenaires pour qui on fait ça, en print et ou en digital. Et donc, le but de faire ça, ce n'est pas de gagner de l'argent parce que ce n'est pas notre modèle économique, mais c'est de créer de la notoriété dans ces médias, puisque évidemment on échange du contenu contre de la visibilité, donc on se rend visible auprès des audiences de ces différents médias, et ça nous permet trois choses. La première, c'est un aimant pour nous à data, puisqu'on reçoit d'une part des gens qui directement nous signalent leur nomination, leur nouveau poste à Nomination. Ils vont peut-être le faire aussi sur LinkedIn, mais ils le font à nous avec des informations généralement très profondes sur leur poste, leur budget, leurs responsabilités. Deuxièmement, c'est un aimant aussi à communiquer de presse, parce que évidemment, quand tu fais le carnet des échos, bizarrement, tu vas recevoir tous les communiqués de presse des entreprises qui veulent être dedans. Donc, ils nous envoient leurs communiqués, et puis En fait, ils nous inscrivent dans la liste de diffusion et on va recevoir des communiqués de nomination, mais pas que. Nouvelle marque, nouvelle BU, nouvel orga, nouveau COMEX. Voilà. Et le troisième effet qui se coule, c'est que quand nos 60 enquêteurs appellent un décideur, bah, le fait qu'il nous ait vu dans les Échos, dans Challenge et dans d'autres journaux, bah, forcément, ça donne un petit crédit de confiance où il se dit qu'on n'est pas, on n'est pas des voyous.
Oui, c'est vrai.
À capter de l'information directement auprès d'eux et d'établir une marque de confiance avec les décideurs. Donc, c'est pas notre modèle économique, mais c'est un truc qui existe depuis le début de nomination, des premiers jours de nomination. C'est un truc hyper structurant pour nous.
Oui, c'est vrai que pour que. Moi, je trouve que c'est vraiment votre fort chez Nomination. Les auditeurs savent qu'ici, on parle plein d'outils, notamment pour aller chercher de la data, hein, ce qui est important pour prospecter, ouais. Les emails, les numéros de téléphone, les contacts, etc. Vous, tu en as parlé, vous avez 60 personnes qui, à la main, vont aller vérifier ces data.
60 plus 20 en interne.
Okay.
Les 60, ils sont en l'occurrence en externe, ils travaillent à plein temps pour nous,
okay.
Mais ils sont logés chez un prestataire. Et ouais. On a 20 personnes en interne sur la data qui, toute la journée,
vérifier
des enquêteurs, des data scientists, enfin voilà. Donc ça fait 80 personnes quand même qui humainement travaillent sur la donnée. C'est pas que de la collecte automatique, loin de là.
Ouais, ça c'est quand même quand on connaît pas les coulisses de l'entreprise, bah, oui. Et qu'on découvre ça, c'est quand même assez incroyable. Et depuis 20 ans quoi, en plus.
Depuis 20 ans. Alors au début, on n'avait pas, on avait évidemment pas toute l'équipe, mais ouais, moi, enfin, on est convaincu que on a plein de technos. On a plein de technos de collègues, de comparaisons, de plein de choses, mais on est convaincu que l'humain est indispensable parce que l'outil c'est bien, mais le geste pour utiliser l'outil c'est super important. Donc c'est la combinaison des deux qui fait la réussite, qui fait que l'information, elle est fiable. Il n'y a pas 36 000 solutions, quoi.
Ok, très bien. Donc aujourd'hui, Serge, tu voulais nous parler d'un sujet intéressant qui va intéresser là aussi beaucoup d'auditeurs, c'est comment continuer à croître, à se développer dans un contexte de ralentissement. Donc aujourd'hui, effectivement, on a un contexte de ralentissement. Pourquoi tu voulais aborder ce sujet aujourd'hui ?
Bah, parce que je pense que je connais pas beaucoup d'entreprises qui ne vivent pas ce ralentissement. Je parle dans le secteur B2B, services aux entreprises, conseil, tech. Alors la tech, ça fait un petit moment qu'il y a une correction, on va dire, qui s'est opérée avec une focale beaucoup plus forte sur la rentabilité. Les GAFA qui réduisent les effectifs, etc. Donc ça on le sait, on le sait tous, mais ça continue actuellement. Et puis on a des secteurs qui sont touchés dans les RH notamment. Donc on observe, on est au cœur du dispositif puisque nos clients sont exclusivement aujourd'hui un peu plus de 1000 entreprises en B2B. Des entreprises de services et de conseils. Donc, on voit leur ralentissement chez nos clients. On voit le ralentissement chez leurs propres clients à eux. Si tu regardes quelques chiffres aux États-Unis, les chiffres qui observent toutes les métriques SaaS, évidemment qui nous intéressent puisqu'on est, on est un SaaS. Si tu regardes le NRR, donc le Net Revenue Retention aux US, le NRR a perdu entre 10 et 30 points quand tu compares Q4 2023 à Q4 2022. Donc ça, c'est pas, ça c'est des chiffres qui illustrent ce ralentissement. Voilà. Donc nous, on le constate. Je ne sais pas si toi tu le constates parmi les gens que tu connais, les boîtes avec qui tu travailles. Avec lesquels tu collabores, mais enfin nous c'est très net depuis septembre en fait.
Oui.
Alors il y a des signes chez nomination On a une acquisition donc qui a été, on a aussi subi ce ralentissement sur novembre, décembre, janvier. Et depuis février, on a une acquisition qui est bien repartie chez nous. Donc ça, c'est plutôt bon signe. On a des signes positifs, on va dire, là, depuis quelques semaines.
Ok. Oui, c'est vrai que l'après-Covid, on va dire 2021, la planche à billets a fonctionné à fond.
À fond, ouais.
Et donc, bah, les entreprises avaient quand même accès à de la liquidité. Donc, notamment dans les entreprises du SaaS, avec l'explosion du télétravail, des outils digitaux, bah, ça leur a été profitable. Et là, effectivement, depuis la hausse notamment des taux d'intérêt, forcément l'économie ralentit. Et tu l'as cité aux États-Unis, qui est un peu on va dire la terre du SaaS. Beaucoup de boîtes ont fait les fameux lay-offs, les licenciements. Et du coup, ça s'est traduit dans un ralentissement global de l'économie. La crise immobilière en Chine, etc. Et donc, on le sent effectivement dans les différents business en France également. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, c'est-à-dire comment on fait. Donc, tu l'as dit, vous, chez Nomination, vous avez réussi à rebondir apparemment ces derniers mois. Comment on fait aujourd'hui quand on subit ça pour trouver des solutions pour rebondir?
Alors, juste un chiffre pour compléter, il y a eu quand même 143 milliards d'investis dans les PGE.
OK.
C'est quand même, enfin, c'est la planche à billets dont tu parlais, c'est quand même beaucoup d'argent. Donc, effectivement, voilà, ça artificiellement un peu surdosé un peu l'économie. Donc, pour moi, tout ça challenge un peu l'approche historique du predictive selling, qui consiste à dire que quelque part il y a une proportionnalité entre le revenu signé et l'effort de vente. Et aujourd'hui, on le voit chez nos clients, ils n'ont pas forcément réduit la voilure sur les ressources commerciales, ils ont autant de BDR, de SDR, de sales qu'avant, mais par contre, l'impact sur le chiffre est plus du tout le même. Donc, c'est quand on perd des clients et que la pêche au filet fonctionne moins bien, bah, en fait, ce qu'il faut faire, c'est aller chercher les gros poissons et plutôt en pêche au harpon. Donc, c'est en tout cas, c'est ce que nous, on est dans cette logique-là chez Nomination et on le voit chez nos clients, ils ont également ce souhait-là.
Ok. Alors, tu as parlé du predictive selling, donc la vente prédictive, pour que les auditeurs qui connaissent pas aient le contexte, ça vient là aussi des États-Unis. Je crois que c'est Aaron Ross, Jason Lemkin avec leur bouquin qui ont mis en avant cette méthode de vente où, en fait, tu as une organisation commerciale qui se met en place, qui est très spécialisée. Avec les fameux, là aussi ceux qui connaissent pas, attention aux anglicismes, hein, mais les BDR, les SDR qui vont être dans la prospection, la génération de leads, les accounts qui vont plutôt closer, les customer success qui vont plutôt faire la prévente. Et ça aujourd'hui, tu nous dis que c'est un peu challengé parce que ça demande beaucoup de cash, beaucoup d'argent parce que c'est des postes, hein, et il faut embaucher. Et aujourd'hui, peut-être que cette organisation, elle est un peu remise en cause parce qu'en fait, peut-être qu'on n'a peut-être pas besoin de 6 personnes dans un cycle de vente, mais on peut en prendre 3 ou 4. C'est ça que tu nous dis
Oui,
dans...
alors en fait, en fait, ce qu'il faut, c'est faire moins et mieux, en fait. Donc, ça veut dire qu'il faut mettre les mêmes ressources ou moins de ressources en fonction de la situation sur des segments de marché qui sont ceux qui ont le plus de valeur. Et donc, c'est ce que nous, on aide nos clients à faire. C'est à concentrer leurs efforts d'acquisition sur les bons segments de marché. Encore faut-il les connaître, ces bons segments de marché. Donc,
Comment tu fais
ben, alors, ce qu'on fait, c'est pour des clients qui ont déjà une base installée de clients, qui n'est pas, genre, 10 clients, parce qu'ils sont lancés il y a quelques mois, mais mais on va dire à partir de quelques centaines de clients, on fait ce qu'on nous on appelle une étude de portefeuille client,
Ouais.
pour identifier les profils clients les plus intéressants. Un plus intéressant, ça peut être en chiffre d'affaires, ça peut être en marge nette, ça peut être en ce qu'on veut, hein. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va rapprocher, on va mapper, matcher leur base de clients avec notre référentiel d'entreprise française d'affiliation, enfin française ou pas d'ailleurs, hein, enfin des entreprises, on va dire, qui sont basées en France. Et on va, ce qui va nous permettre de segmenter le portefeuille client avec des critères qui sont généralement absents du CRM du client. Et ces critères, ce sont le secteur d'activité, mais le vrai secteur d'activité, pas le code NAF, hein, parce que je te rappelle que les codes NAF, c'est sympa, mais il y a
C'est
souvent
super.
pas mal d'erreurs, il y en a
Ouais.
plein qui sont hyper casse-gueule, qui sont complètement faux. Donc nous, c'est une donnée qu'on redresse. On a des secteurs qui sont très fins, en termes de, on a des secteurs, des sous-secteurs. Donc ça, c'est un premier critère. Le deuxième critère, c'est nos tailles d'entreprise. Et ce n'est pas des tailles d'entreprise type des tranches de CA, des tranches d'effectifs. C'est des tailles d'entreprise qui sont plus parlantes, à savoir grandes entreprises, ETI, filiales de groupe répondant à des critères ETI, filiales de groupe répondant à des critères PME, PME. Enfin, moyenne entreprise, petites entreprises et start-up. Et donc,
OK.
ça, c'est des données que nous, on retraite et qu'on qualifie nous-mêmes avec nos équipes. Je donne toujours l'exemple de Generali France. Tu vas sur Papers, tu tapes Generali France, ça va te dire qu'ils ont entre 6 et 9 salariés. Ouais, c'est ce que tu fais, c'est ce que tu as. Si tu ne redresses pas l'information, et ce n'est pas évident à redresser, il faut de l'expertise, il faut un regard particulier sur la boîte pour savoir que Generali, bah oui, évidemment, ce n'est pas 6 à 9. Donc, nous, on va le redresser. On a plein de sources pour faire ça, on a plein de méthodes pour avoir quelque chose qui soit le plus fiable possible. Voilà.
Est-ce que dans les critères, vous prenez le cycle de vente, la rapidité pour signer ou la lenteur pour signer, ou ça, c'est pas un critère, chez vous?
Bah, quand on analyse, ça c'est en vrai d'ailleurs, c'est intéressant que tu parles de ça parce que quand on parle de ralentissement de l'économie, évidemment, on parle de ça, de l'allongement des cycles de vente, de la baisse du taux de closing, la hausse du churn, etc. Mais non, quand on fait une étude de portefeuille, on n'a pas ces données-là. On est plus sur une photographie du portefeuille à instant T. Et on ne prend pas en compte ce que tu viens de dire.
OK.
Donc, ça, c'est donc on segmente le portefeuille. Et donc, on va pouvoir, par secteur et par taille d'entreprise, on va pouvoir calculer le panier moyen et le taux de pénétration. Alors, le taux de pénétration, hein, c'est le nombre de clients qui ont été activés sur le secteur considéré. Ce n'est pas le taux de pénétration par rapport aux concurrents. Ça, on n'a pas la prétention de savoir ça pour notre client.
Donc tu peux répéter, c'est le taux de clients.
C'est le nombre de clients,
Ouais.
c'est le nombre de clients que j'ai dans l'industrie
OK.
ou que j'ai dans le luxe par rapport au nombre total de comptes dans le luxe qui existe en France.
OK, très bien. Et comme
Tu
ça,
vois?
tu vois quand une entreprise est peut-être plus puissante sur un secteur. Et on peut se dire, bah, en ces temps un peu incertains, on va se focaliser sur ce secteur parce qu'on sait qu'on a des fondamentaux solides sur ce secteur.
C'est ça. Donc, ça permet déjà de faire un éclairage sur où est-ce que j'ai les plus beaux paniers, par secteur et par taille d'entreprise, où est-ce que j'ai le plus de potentiel de prospection. Donc, ensuite, on va croiser, on fait une matrice où on croise le secteur et la taille de boîte pour identifier très précisément que, par exemple, ça va être les grands comptes du secteur bien de conso qui ont le plus beau panier moyen. Et que dans le secteur banque, on va plutôt conseiller à notre client d'aller chercher plutôt les filiales, parce que c'est là où ils ont le plus déployé de paniers. Et donc, chaque croisement, on va être capable d'identifier les prospects à aller chercher. Donc, on va pouvoir dire, par exemple, que sur les grands comptes des biens de conso, du secteur biens de conso, eh ben, on va lui conseiller plutôt de déployer une approche ABM parce que il y en a 65 à aller chercher, tandis que sur, par exemple, les ETI et les filiales ETI de l'industrie, eh ben, on a identifié 3000 prospects à aller chercher, donc là, ce ne sera pas une approche ABM, ce sera plutôt une approche lead gen.
Tu peux expliquer l'approche ABM ?
Ben, l'approche ABM, c'est-à-dire que on va, tu vas pas déployer forcément une mécanique de masse.
Tu vas le faire à la main.
Là, on va plutôt être dans une logique où tu vas concentrer tes contenus marketing sur ces boîtes-là. Tu vas peut-être faire des landing pages personnalisées par compte. Et puis, tu vas avoir une ou deux personnes dédiées qui vont aller faire de la veille sur ces comptes-là. Donc, tu vas faire un effort de sourcing et de production de contenu que tu ne ferais pas, évidemment, sur 3000 comptes.
Oui, parce que tu ne veux pas griller tes cartouches, donc tu fais vraiment presque du sur-mesure.
C'est presque du sur-mesure, c'est un peu de la haute couture. Et okay. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que quand on mène une étude de portefeuille, en fait, on va challenger des croyances. Très souvent, on va avoir, par exemple, un client qui va dire « Bah ouais, en fait, moi, je sais que mes beaux paniers sont sur le SBF 120. » Et bien, en fait, là, en faisant ça, ben, on va lui dire qu'en fait, ces beaux paniers ne sont pas forcément là où il croit et qu'en fait, il peut avoir des paniers qui sont très sympas sur des boîtes plus petites. Et c'est d'autant plus intéressant sur ces boîtes plus petites qu'il y a un potentiel de prospection qui est beaucoup plus important. Donc, c'est un exemple de croyance qu'on challenge. Autre exemple, on est super fort sur les grands comptes, c'est bon, on les a tous, il faut qu'on aille chercher les ETI. Non. En fait, ton taux de pénétration sur les grands comptes, il est de 20%. C'est pas mal, 20%. Hein. Mais n'empêche que tu en as quand même quelques centaines d'autres à aller chercher. Donc, tu n'as pas fini le job, mon gars. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et la finalité de tout ça, c'est de projeter le client sur « voilà les segments de marché qu'il faut que tu ailles prospecter ». Et on est capable de lui donner la liste des comptes précises à aller chercher.
Super.
Voilà, donc ça, donc quand tu fais ça, tu répartis mieux tes efforts, en fait.
Ouais, donc ça, tu as dit, effectivement, on accompagne nos clients qui ont déjà un certain nombre de clients, mais tu sais, moi, j'accompagne parfois des startups qui sont un peu au début. Et en fait, je leur explique que dès les débuts, tu peux, quand tu prospectes, faire des sortes de segmentation et voir très vite. C'est pour ça que je te parlais de la rapidité de signer, parce qu'en fait, c'est la première data que tu peux voir quand tu démarches, par exemple, le secteur du luxe, le secteur de la grande distribution, etc. etc.
Alors,
tu vas voir peut-être à un moment donné un secteur où tu signes plus vite et après, tu feras le travail dont tu as parlé,
absolument.
C'est-à-dire à partir d'un certain nombre de clients. Qu'est-ce qui me rapporte le plus de sales?
Alors,
de marge, quoi.
Le truc, c'est qu'il y a une corrélation souvent assez forte entre la vitesse du cycle de vente et le panier. Hein, c'est beaucoup plus rapide de vendre 2000 balles que de vendre 100 000. Maintenant, si le client est capable de nous livrer, en plus du panier du chiffre, il est capable de nous donner en combien de temps ça s'est signé. Ah ben là, c'est super intéressant parce qu'effectivement, on pourrait pousser l'analyse. Tu as complètement raison. Mais bon, après, tu as pas mal de boîtes qui n'ont pas forcément cette donnée-là dans le CRM. Donc, ça c'est un peu au cas par cas.
OK. Donc, quand tu fais cette étude de portefeuille, tu identifies, donc, on va dire, les prospects qui pourront être le client idéal, en fait.
Ouais.
Et ensuite, qu'est-ce qu'ils font? Tu les accompagnes sur… la prospection?
Eh ben, en fait, donc nous, ce qu'on fait, donc, c'est que donc une fois qu'on a fait ça, le but de tout ça, c'est de bien prospecter au bon endroit et d'aller chercher les gros poissons. Les gros poissons, aujourd'hui, vu le contenu du contexte, c'est les CXO dans les belles boîtes. Donc, alors, quand…
Les CXO, c'est-à-dire?
Les CXO, ça va être, je parle au DAF Group, okay. Je parle au DG France ou EMEA, je parle au CMO et pas au responsable marketing, je veux parler je veux parler que
décideur,
plutôt qu'assassin. Voilà. Donc, alors, le truc, c'est que nous, notre conviction, c'est que quand tu t'adresses à quelqu'un qui est à haut niveau, cette personne-là, en fait, elle ne veut pas parler à un sales, elle veut parler à un expert. Elle veut parler à quelqu'un qui va l'aider à résoudre sa problématique. Le gros problème, c'est que les experts, ils n'ont pas le temps de faire la prospection dans les boîtes. Donc, chez nos clients, les experts, par exemple, une boîte de conseil, ça va être les associés, les partenaires, qui sont chacun ultra forts sur un domaine d'expertise bien précis. Mais ce n'est pas eux qui font de la prospection, ils ne savent pas faire, ils n'ont pas forcément envie, ils n'ont pas forcément le temps. Ça peut être dans une boîte, ça peut être le fondateur. Le fondateur, c'est quand tu interroges les collaborateurs dans le couloir, ils vont tous dire que c'est le meilleur commercial de la boîte, sauf qu'en fait, il ne fait pas de prospection. Tu l'amènes en rendez-vous, il cartonne, mais il ne fait pas de prospection. En fait, il n'a pas le temps de faire de la prospection. La prospection, c'est quelque chose qui demande de la rigueur, un peu métronomique, de la persévérance, de la continuité. C'est pas un one shot, c'est un marathon. Et ça, évidemment, un DG, c'est pas son job, il n'a pas le temps de le faire. Et donc, il y a une espèce d'équation un peu insoluble où tu as des équipes commerciales qui font de la prospection, mais quand il s'agit de parler à des gens à haut niveau, ben, si tu veux, le SDR qui a ses 15 questions de qualif, ça ne marche pas du tout. Le mec, il se fait… Enfin,
ouais,
c'est très compliqué. Donc, une fois qu'on a dit ça, en fait, c'est exactement ça qui a déclenché chez nous, chez Nomination, l'envie de lancer cette offre de service qu'on a appelée Smart Audience, où on va dans la finalité est de faire prendre la parole à des experts chez notre client pour générer les bonnes conversations avec les CXO sur les Dream Prospects. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on opère chez nous. Donc le client, évidemment, il est impliqué dans le projet, on a des comités de pilotage, etc. Mais le client, lui, ce qu'il attend de cette offre de service, c'est des conversations qui s'enclenchent avec les bonnes personnes, mais surtout avec des personnes qui ont un sujet en ce moment, pas des personnes qui vont t'accorder un rendez-vous de courtoisie où tu vas gentiment discuter, mais il ne va rien se passer derrière.
Oui, donc vous allez essayer de détecter des signaux d'achat et d'engager ces conversations.
Alors, c'est une très bonne question, Alexandre. En fait, très souvent, alors bien sûr qu'on détecte des signaux d'achat, c'est une des data qu'on produit sur Nomination, puisqu'on capte les nominations, on capte les sujets sur lesquels s'expriment les décideurs lorsqu'ils sont speakers dans les conférences, et on capte tous les signaux d'entreprise type levée de fonds, projet IT, projet marketing, recrutement, etc., etc. Donc, bien sûr qu'on a des signaux et on les utilise, mais ce n'est pas suffisant. Et en fait, ça reste quelque chose de compliqué de deviner qu'en ce moment, dans cette boîte-là, il y a un sujet qui résonne avec ma proposition de valeur. Donc, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on on va nurturer une audience de différentes façons, je vais y revenir, pour aller chercher des gens qui, à un moment donné, certains d'entre eux vont lever la main, répondre au mail et dire « Intéressant, rencontrons-nous, parlons-en, voici des créneaux la semaine prochaine. »
Donc, nurturer…
Avec mon CTO, voici ses coordonnées. Et quand une personne répond à un mail, parce qu'on utilise le canal email pour faire ça, généralement, quand il fait ça, c'est qu'il a un sujet.
Donc quand tu dis vous allez nurturer, en fait, vous apportez de la valeur par email avec des articles sur le secteur, des choses comme ça.
Alors,
vous allez simplement…
Il y a plusieurs
techniques, ouais.
Plusieurs leviers qu'on va activer. Déjà, avant de parler de ces différents programmes qu'on met en place, cette offre, elle s'appuie, pour que tu vois bien un peu la philosophie, sur trois piliers, en fait. Le premier pilier, c'est qu'on va on va constituer une audience qui est vraiment ultra qualifiée pour le client. C'est vraiment de la dentelle. On va dire tel compte et pas tel autre, telle filiale, pas tel autre. On va exclure évidemment les clients de notre client. Et on va donc constituer cette audience avec les bonnes personas sur les bonnes boîtes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, le deuxième pilier, c'est on va prendre en charge le copywriting des mails, donc objet, corps du mail. Et on va effectivement, comme tu l'as un peu deviné, on va aller identifier chez notre client quels sont les bons contenus à pousser auprès des personas des CXO qu'on va engager.
Okay.
On va exploiter le contenu pour aller générer de la conversation. Et pour ça, on va plutôt avoir dans notre copywriting une approche conversationnelle. Donc, on fait de l'anti-marketing, en fait. C'est surtout pas du marketing, parce que quand le DG de notre client envoie un mail à 19h32 au DAF Group de SFR, il va pas s'amuser à mettre un bandeau et faire quelque chose de joli. En fait, il va faire un mail extrêmement court, bien léché, et c'est exactement ça qu'on cherche à reproduire. On cherche à reproduire la conversation que quelqu'un de haut niveau veut générer avec quelqu'un de haut niveau en face. Et le troisième et dernier pilier de cette offre, c'est la techno, parce que aujourd'hui les emails sont souvent envoyés par les entreprises avec du marketing automation, ça peut être du Pardot, du Eloqua, différents outils. Le problème de ces outils, c'est les filtres anti-spam. Est-ce que tu sais, Alexandre, quand une boîte fait un emailing et envoie du contenu à une partie de son CRM, est-ce que tu sais combien de mails arrivent pour de vrai à leur destinataire?
Écoute, je dirais peut-être 30% peut-être. C'est moins.
Ouais, alors là t'es dur. Non, on est entre, on va dire, il y a un mail sur deux qui arrive à son destinataire.
Ok.
Et ça peut être 30-40, ça peut être 50-60, mais on va dire grosse maille, c'est 1 sur 2. Mais est-ce que tu te rends compte que tu as la moitié de ton audience qui ne voit rien de ce que tu lui envoies, en fait? C'est quand même monstrueux, en fait. Donc,
oui, et puis après, dans ces 50%, tu vas avoir un taux assez important de gens qui ne vont pas ouvrir le mail ou pas le lire. Ouais.
Et puis ensuite, effectivement, tu as ton churn avec les gens qui n'ouvrent pas, etc. Donc, en gros, c'est parce que tout ça s'appuie sur la technologie, sur les serveurs SMTP. Et qui dit SMTP, dit les filtres anti-spam qui s'activent, qui disent, toi, je te classe en spam.
Ouais.
Donc, nous, on a développé. Et par contre, quand tu envoies un mail en one-one, si toi, tu envoies un mail en one-one au CTO de L'Oréal, il va recevoir ton mail, si tu l'envoies depuis ton Gmail ou depuis ton Outlook. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé un automate de mail one-one.
Okay.
Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie des mails qui sont des vrais ou des one-one, mais qu'on répète un certain nombre de fois par jour. Alors, évidemment, la contrainte, c'est que tu ne peux pas envoyer des milliers de mails comme tu peux le faire avec un emailing.
Ouais.
Tu peux envoyer à peu près, on va dire, 130 emails par jour et par sender, parce que tu peux avoir plusieurs senders.
Okay.
Donc, quand je te disais qu'on fait parler des experts, on va peut-être faire parler le founder. Donc ça, c'est un premier sender qui va plutôt, lui, partager du contenu. Et puis, on va faire parler un consultant senior, je ne sais pas, quelqu'un qui est vraiment expert, sur plutôt la partie prise de rendez-vous. Donc, trois piliers, audience ultra qualifiée, copywriting avec une approche un peu conversationnelle, et une technologie qui permet d'avoir aujourd'hui, pour avoir des points de comparaison, on atteint des taux d'ouverture de 35 à 60% et des taux de clics entre 5 et 12%. Donc, qui n'ont rien à voir avec la perf de l'emailing classique. Donc, Ensuite, on va activer différents programmes. Un premier programme qui va être plus un programme de qui va viser à créer de la notoriété auprès de ces personnes-là, et de la notoriété autant de la marque que de la personne qui émet. C'est-à-dire que quand tu reçois des contenus qui sont vraiment intéressants pour toi, ça peut être un business case, un livre blanc, ça peut être le résultat d'une enquête. Donc moi, je suis CTO dans une boîte, ou je suis DAF Group dans une boîte, je reçois des contenus qui m'intéressent, que je vais lire. Je ne vais pas forcément répondre, mais ils m'intéressent. Je vais, dans mon esprit, je vais reconnaître que Alexandre Vaquier, c'est un mec qui m'envoie des contenus intéressants et que sa boîte, en fait, ils font des choses qui m'intéressent. Donc, je vais pas forcément répondre parce que ce n'est pas ce qu'on me demande, ce n'est pas forcément mon moment à moi, mais déjà, je vais augmenter ma notoriété de qualité auprès de cette audience. Donc ça, c'est un premier programme que j'ai mis en place avant un deuxième programme qui est plus dédié génération de rendez-vous. Donc, et où là, on va aller être un peu plus engageant et inciter la personne à vouloir nous rencontrer. Donc c'est là que quand tu vas engager 1000, 1500 personnes, parce que généralement, c'est des programmes qu'on active sur des volumes qui sont à peu près de cet ordre-là. Hein. On n'est pas sur 50 personnes, parce que là, c'est la faute. On n'a pas vraiment de valeur ajoutée. Il vaut mieux que ce soit fait à la main par le client. Ce n'est pas non plus des volumes de 5 ou 10 000. C'est plutôt des audiences relativement bien ciblées, CXO, sur quelques segments de marché, et on va se balader. Oui, c'est ça, entre 1000 et 2000, 2500 contacts.
OK.
Donc, on heurteur cette audience, on a une brique, on va copywriter plutôt des séquences de prise de rendez-vous, donc c'est des scénarios d'email. Et puis, on peut avoir une brique aussi événementielle où le client organise, soit on va se raccrocher à un événement qui est déjà organisé par le client, soit on va créer un événement ad hoc. Et on va inviter l'audience à cet événement pour les rencontrer. Et on va gérer le truc que très peu de clients font, le post-event. Donc, le post-event, c'est quoi ? Je vais faire une synthèse de l'événement sous 48 heures après l'événement et je vais l'adresser à tous les gens qui se sont inscrits et qui ne sont pas venus. On a quand même aujourd'hui à peu près 50% de nos shows sur des events. Donc, ceux qui sont inscrits, qui ne sont pas venus, qui sont pour le coup les bonnes personnes qu'on a fait venir, et ben, ces gens-là, on va leur adresser la synthèse et on va faire pareil sur les gens aussi, évidemment, qui sont venus. Et le but de tout ça, c'est de générer des conversations one-one post-event. Voilà, donc, on a notoriété, rendez-vous, event. Le but de tout ça, c'est qu'il y ait des gens qui réagissent en demandant, en étant intéressé par nouer une conversation, où on les fait venir à un event pour créer une relation one-one, un tutu personnel pour le client.
Oui, donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu peux dire, tout à l'heure, on parlait des signaux d'achat, de détecter un peu les conférences, etc., auxquelles participaient les clients, mais finalement, tu peux aussi créer, toi, un événement qui te permet d'avoir de la matière pour engager des conversations, contacter des prospects, et finalement, tu n'es pas forcément obligé d'attendre que le prospect fasse quelque chose pour générer de la conversation. Quoi.
C'est ça. Et puis, bien sûr que nous, on produit ces signaux dont j'ai parlé, mais on n'a pas le signal sur mesure pour le client. Tu vois, donc, et ça, la seule façon de détecter des signaux, ces signaux-là, et ben, en fait, c'est d'aller... C'est de discuter avec eux quelque part, hein, par mail, pour avoir aujourd'hui, on a des taux de transfo entre 2 et 12%. Donc sur 100 boîtes, je vais générer entre 2 et 12 conversations avec vraiment les bonnes personnes avec des gens qui ont des sujets par rapport à ma proposition de valeur. Donc, on a fait une opération pour une boîte de conseil. On a adressé à peu près 700 comptes. On a généré 94 rendez-vous avec du DG, du DAF, du DRH et du CTO. Voilà, donc ça, c'est un exemple. On a pour un autre, une plateforme de recrutement que tu connais, que tout le monde connaît, mais que je ne peux pas citer. On a fait venir un peu moins de 400 DRH dans un roadshow qu'ils ont organisé dans 5 villes de France. Et on a fait venir tous ces DRH et que des vrais DRH. Hein, c'est vraiment, là justement, on est, notre promesse, c'est que les bonnes personnes et uniquement les bonnes personnes. Et ça leur a permis de nouer des contacts avec eux. Et pourquoi ils nous ont missionné là-dessus, c'est parce que leurs commerciaux parlent plutôt au RRH, au responsable du recrutement, qu'ils ont plein de nouvelles offres à faire connaître auprès des DRH qui connaissent, avec qui ils ont moins de conversations, et donc ils nous ont missionné là-dessus. Voilà. Donc généralement les clients qui viennent, qui pour qui on déploie cette offre de service Smart Audience, c'est des clients qui ont, qui veulent lancer une nouvelle offre, qui sont, qui veulent s'adresser à des personas qui connaissent moins bien, qui ont des problèmes de notoriété, ou qui sont sur un, qui ont un segment de marché qui sont un peu compliqués pour eux. Et donc là, là, ils nous sous-traitent quelque part la prospection sur ce segment-là. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne font pas de prospection par ailleurs, hein, mais ils vont nous, il y a un petit morceau qu'ils vont nous donner.
Ouais. Bah écoute, très bien Serge, on voit bien les bonnes pratiques qu'on peut appliquer, hein. Tu, pour résumer, analyse du portefeuille, segmentation, dans la prospection, s'appuyer sur du copywriting de qualité, tu as cité le mot clé, hein, nurturing, c'est-à-dire que prospect se travaille dans le temps, c'est pas juste un mail, un contact, et s'il dit non pour un rendez-vous, on l'oublie, c'est vraiment, on lui envoie plusieurs contenus, on fait plusieurs points de contact. Là, tu as cité le mail, mais on pourrait imaginer aussi d'autres canaux d'acquisition. Ouais. Est-ce que avant d'arriver aux questions de la fin, tu as quelque chose à ajouter sur ce sujet du jour ou tu penses qu'on a fait
Non. Je me permets d'insister sur ce point-là. C'est que les meilleurs vendeurs ne sont pas forcément ceux qui font la prospection. Il faut bien se le... Enfin, c'est important, en fait. C'est que je te dis, je pense que tu vois le founder. J'ai souvent entendu ça dans des boîtes. Le founder, c'est le gars qui est le plus performant au rendez-vous parce qu'en fait, il porte la boîte parce qu'il est dans une posture de vente. Ouais. Il est dans une posture d'expert en fait. Donc, et ça, c'est vraiment une équation qui est vraiment pas simple à résoudre. C'est que ces gens-là, ils n'ont pas le temps de faire la prospection. Ce serait génial que les mecs, on adorait que son founder fasse des mails de prospection tous les jours, bonne personne, fasse des relances et tout. Ce serait top parce que le mec répond. Et ça... Mais en fait, ce n'est pas possible. Donc, c'est pour ça qu'on a fait, on crée cette mécanique, on crée des avatars quelque part. On crée l'avatar du founder et c'est cet avatar qui va communiquer avec l'audience.
C'est vrai que c'est un phénomène qu'on voit souvent hein, quand tu as une startup qui commence à bien marcher, premier commercial, c'est le fondateur. Puis dès qu'il commence à embaucher les premiers commerciaux, il y a une perdition, il y a une baisse de la conversion des clients et tout de suite, on se demande pourquoi. Quoi. Et en fait, c'est normal.
C'est normal. Mais si tu veux, le sujet devient vraiment critique quand tu veux engager des belles boîtes et sur du CXO. Ouais. En fait. Ouais. Si tu es encore en pêche au filet, à faire... Bon, là, ça marche, tu vois, les SDR, la génération de lead, les SDR, la qualification, le closing, etc. Ça fonctionne. Mais quand tu veux activer des cibles un peu particulières, ça fonctionne moins bien, si tu veux. C'est là où le predictive selling est moins performant. Et là, il faut être dans une logique beaucoup plus target et faire parler les bonnes personnes dans la boîte. Quoi. Ok. Pas forcément les commerciaux.
Ouais, très bien. Bah, écoute, merci Serge. J'arrive aux questions de la fin que je pose à tous mes invités. C'est des questions ping-pong, donc tu peux me répondre de manière très synthétique. Est-ce que il y a un changement d'état d'esprit ou une prise de conscience que tu as fait beaucoup trop tard ?
Oui. Si tu veux, nous, ça fait un peu plus de 20 ans qu'on existe. Ça fait 20 ans qu'on équipe des commerces, enfin des entreprises avec des outils SaaS de prospection ou lead gen. Et notre ennemi juré, c'est le non-usage. En gros, quand les gens nous quittent, ce n'est pas parce qu'ils ont trouvé que la data n'était pas bien, etc. Ça, c'est rare, heureusement, parce que c'est un peu notre promesse. Mais c'est parce que tout simplement, ils n'ont pas utilisé, soit parce qu'ils n'ont pas eu le temps, soit parce que parfois, on a des boîtes qui ont besoin de faire de la prospection, mais qui ne savent pas faire de la prospection. Qui n'ont pas la rigueur, qui ont pas le, qui ne savent pas faire. La prospection, c'est plus un métier, presque une passion en fait. C'est-à-dire que soit tu aimes faire de la prospection, tu aimes rentrer dans des comptes, et du coup, parce que tu aimes ça, tu vas avoir cette rigueur pour le faire tous les jours, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et soit c'est pas ton truc, et il faut surtout, enfin, il y a pas de demi, il faut vraiment avoir le goût pour ça en fait. Et quand tu as le goût, ensuite tu développes les skills, les expertises, etc. Mais je pense que le goût pour la prospection, c'est un truc, ça s'invente pas. Et tu as quand même des boîtes, bah, ils ont besoin de faire de la prospection, bien sûr, mais ils n'ont pas forcément des personnes qui ont cet amour de la prospection. Donc, et ces gens-là, bah, ils s'équipent de nomination, et c'est un peu compliqué parce que ils nous quittent parce qu'ils n'ont pas forcément utilisé suffisamment à fond l'outil. Donc, ce que je regrette, c'est de ne pas avoir lancé plus tôt cette offre de service qui, quelque part, répond à cette problématique-là en disant, bon, OK, tu sais quoi, on va le faire pour toi, en fait.
Ouais, et puis
Voilà.
c'est vrai que pendant longtemps, et j'ai l'impression que ça change un peu, on dissociait les boîtes SaaS et les boîtes de service en disant les boîtes SaaS ne doivent pas se perdre dans le service et peut-être les boîtes de service ne doivent pas se perdre à créer leur propre logiciel, etc. Et chacun reste dans son chasse gardée, mais au final, l'hybride SaaS plus service, ça permet quand même, comme tu l'as dit, de réduire du churn parce que tu accompagnes les gens. Et ça permet aussi d'avoir peut-être plus de freins, comment dire, de se mettre des avantages concurrentiels par rapport à des concurrents. Parce que c'est pas si évident que ça de créer des offres de services autour de SaaS, quoi.
Bien sûr, bien sûr. En plus, si tu veux, c'est d'autant plus, je regrette d'autant plus de ne pas l'avoir lancé plus tôt, c'est qu'en fait, on accompagne énormément nos clients. On a, au-delà de l'offre de service, on a une équipe Customer Success qui est importante, qui est vraiment experte, et on passe notre vie à parler à nos clients, à les aider à utiliser notre plateforme, à les aider dans le ciblage, à leur donner des conseils sur le copywriting qu'ils font, parce qu'on ne peut pas s'empêcher de leur dire, ah, mon gars, non, fais pas comme ça,
Voilà.
arrête de parler de toi, parle de ce que tu peux apporter, des bénéfices, enfin, c'est fou. On est force de proposition, on est devenu un peu expert un peu de la prospection en aidant nos clients à le faire. Et donc ça a été très naturel pour nous, en fait, carrément de franchir le pas et de dire, tu sais quoi, on s'occupe de tout, on va te faire rencontrer les bonnes personnes.
Très bien. Et en termes de compétences, Serge, est-ce qu'il y a une compétence que tu n'as pas aujourd'hui et que tu aimerais avoir? Est-ce qu'il y a une autre compétence que tu aurais aimé avoir plus tôt?
Pas facile, pas facile. Certainement plein de compétences que j'aurais aimé avoir plus tôt. Pas trop de réponse à cette question. Il faudrait que tu me donnes un tout petit peu plus de temps, Alex.
Je te pose une autre question et ça
Ouais,
permettra de
yes.
réfléchir
S'il te plaît, ouais.
en arrière-plan. Est-ce qu'il y a un achat, c'est une question empruntée à Tim Ferriss, est-ce qu'il y a un achat de moins de 100 euros, à peu près, hein, qui t'a changé la vie?
Alors, on a fait récemment, alors c'est pas 100 euros, mais c'est un investissement qui était quand même assez faible au regard de notre taille de boîte. On a investi une solution, ce qui s'appelle le Lixi,
Ouais.
donc qui permet deux choses, qui permet d'enregistrer donc tous les calls qui sont faits généralement par les commerciaux, mais c'est pas forcément que par les commerciaux, ça peut être aussi par tous les gens qui sont en contact avec les clients. Hein, donc, commerciaux, customer success, direction. Donc tout ça maintenant est enregistré. Et tu peux réécouter tes propres calls pour voir, merde, j'ai un peu merdé là-dessus, pour un peu, que ce soit un peu auto-apprenant. Tu peux écouter les calls. Ça fait 3 semaines que tu es arrivé dans la boîte. Tu peux écouter les calls des gens qui sont un peu plus seniors pour voir un peu comment eux ils pitchent le client et comment ils s'y prennent. Donc, ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet qui est assez sympa, c'est que ça te fait avec de l'IA, ça te génère une synthèse du rendez-vous et ça te la met dans ton Salesforce. Voilà. Donc, ça, c'est un investissement. Ce n'est pas 100 euros, mais c'est un peu un budget relativement maîtrisé. Et ça, je trouve que c'était vraiment un angle mort, en fait. Ça te permet de réécouter de manière asynchrone les calls parce que. Si tu veux écouter un commercial en rendez-vous, avant d'avoir l'XI, ben, il fallait être dans le rendez-vous, quoi. Et ça, tu peux pas faire tous les rendez-vous de tous les commerciaux, c'est pas possible. Donc là, ça permet, de manière asynchrone, une fois par semaine, de dire, tiens, je vais écouter ce call-là, ce call-là, ce call-là, ce call-là, et de faire un peu, tu vois, et ça permet de faire monter plus vite les équipes en compétences. Et
Ouais,
donc, ça a bien joué le jeu. Il n'y a pas eu du tout cette sensation de ah ouais, non, je ne veux pas enregistrer parce que je vais me sentir fliqué. Il n'y a pas eu du tout cette perception-là.
si vous voulez voir comment ça fonctionne, j'ai fait une vidéo là, que vous pourrez retrouver sur la chaîne YouTube des Héros de la Vente où je fais une démo de l'outil. Et d'ailleurs, on pourra faire une démo de nomination aussi, puisque je commence à faire de plus en plus de démos d'outils pour les commerciaux. N'hésitez pas à regarder si c'est un cas
Okay.
d'usage qui vous intéresse. Écoute, très bien, Serge. Dernière question, à moins que tu as une idée sur la partie compétences, mais dernière question, qui souhaiterais-tu inviter sur ce podcast? Et si tu as une idée sur la compétence que tu aimerais avoir, avec plaisir.
Bah écoute, j'ai presque envie d'être un peu à contre-pied de je te parle d'un gars qui est super fort en predictive selling. Qui a des équipes, des armées de SDR, qui est un expert là-dessus. En fait, je pense à quelqu'un qui a une grosse équipe marketing et business development et qui a un challenge absolument monstrueux pour transformer cette équipe pour passer d'un marketing com à un marketing business visant à générer justement des rendez-vous et du billing. Donc, cette personne est chez une entreprise de conseil qui s'appelle Deloitte.
OK.
C'est la patronne donc, du marketing et du business development qui s'appelle Hélène Dellera. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elle pourrait donner le point de vue de quelqu'un qui va mettre le projecteur sur c'est quoi les enjeux et c'est quoi les challenges pour transformer une équipe et l'amener d'un point A à un point B. Et donc l'amener d'un truc un peu ancienne garde à un truc justement où on va être plus dans un modèle de prédictif selling. Donc quelqu'un qui est entre guillemets en retard par rapport au modèle prédictif selling, mais qui a des gros enjeux et qui prend ce chemin-là. Je trouve ça intéressant d'avoir ce regard un peu dans le sens, en fait.
Ok, bah écoute, super Serge. Je verrai ça sur LinkedIn, je la contacterai, je lui proposerai. Et puis, bah
Yes.
écoute, on arrive à la fin de l'interview. Merci beaucoup pour nous avoir partagé toutes ces bonnes pratiques à
T'en
appliquer
prie,
dans vos,
c'est un
dans,
plaisir.
dans ce, vos cycles de vente. On mettra un lien pour aller tester votre outil de nomination et puis un contact. Hein, si les gens veulent en savoir plus sur vos services, ils peuvent aussi te contacter sur LinkedIn, hein, c'est ça?
Bien sûr.
Serge Papeau, donc on
Serge
mettra.
Papeau ou nomination. Enfin, Serge Papeau en l'occurrence. Yes.
Ok. Ben écoute, à très bientôt et puis
À bientôt, Alexandre.
n'hésitez pas à partager l'épisode si ça vous a plu et puis on suit vos actualités et puis faites tous de belles ventes.
Yes. Merci. À
À bientôt,
bientôt.
Serge. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Si vous voulez continuer à approfondir ces sujets, retrouvez sur le site lesherosdelavente.com l'ensemble des podcasts et également la newsletter Les Chroniques de la Vente. Donc deux fois par mois, je vous envoie toute la veille que je fais sur les nouvelles techniques de vente, les nouveaux outils, et je fais également un portrait d'un entrepreneur qui a craqué le système pour exploser ses ventes. Donc on se retrouve sur cette newsletter ou sur LinkedIn pour continuer à échanger sur ces sujets passionnants. Et n'oubliez pas de noter 5 sur 5, le podcast, ça m'aide énormément. Belle vente à tous !